Chapitre 4.
On se calme, allez, on se calme, s'il vous plaît, s'il vous plaît!
Le ministre de la Recherche, Benjamin Wells, est debout devant un pupitre, face à une assistance composée de journalistes impatients. Benjamin a une tête de forme triangulaire et les grands yeux noirs brillants typiques de la famille Wells, qui donnent à tous ses membres une ressemblance troublante avec l'écrivain Franz Kafka. Pour l'occasion, le ministre s'est habillé de noir. Costume noir, chemise noire, cravate noire. Il fait teinter le verre posé sur le pupitre en le frappant avec un stylo.
S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît.
La salle finit par obtempérer. Quand, enfin, il semble avoir l'écoute de tous, il se penche vers le micro.
Mesdames, messieurs, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour évoquer l'intrusion qui a eu lieu cette nuit au Muséum d'Histoire Naturelle. Intrusion qui a donné lieu à la révélation du projet Métamorphosis, décrit en détail par le journaliste Diego Martinez. Monsieur Martinez s'est déjà illustré par ce qu'il est commun d'appeler des « scoops » dans le domaine du journalisme. Monsieur Martinez prétend avoir lu un énoncé précis du projet lors de son intrusion en pleine nuit, illégale, je le rappelle, dans les locaux du Muséum d'Histoire Naturelle. Il en a donné quelques éléments sur Internet, assez troublants pour créer une tempête médiatique.
La rumeur enfle dans la salle de conférence du ministère. Wells fait de nouveau teinter son verre avec son stylo.
S'il vous plaît, s'il vous plaît!
Lorsqu'enfin le silence est revenu, le ministre poursuit.
Ça ne servirait à rien de le nier. Le projet Métamorphosis existe vraiment. Et ce que Diego Martinez décrit dans son article est réel.
Les commentaires reprennent de plus belle.
Une nuance mérite cependant d'être apportée. Métamorphosis n'est qu'un projet, rien qu'un projet. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette mise au point officielle. Pour ceux qui n'auraient pas encore lu l'article de M. Martinez, en voici la teneur. Le professeur en biologie évolutive Alice Kammerer, qui est à l'origine du projet Métamorphosis, souhaite mettre au point, en utilisant les dernières techniques de manipulation génétique, une nouvelle humanité diversifiée en trois sous-espèces. Des humains volants, des humains creusants et enfin des humains nageants.
Ça y est, il l'a dit. Maintenant, le monde sait. J'ai tellement redouté cet instant.
De nouveau, la salle se met à bruisser. Le ministre de la Recherche tente de calmer l'auditoire.
Je sais, cela peut paraître, comment dire, avant-gardiste. C'est ça, avant-gardiste. Jusqu'à en être déstabilisant. Mais peu importe le terme. Dès ce matin, l'annonce a généré une incompréhension et une hostilité aussi soudaine que disproportionnée.
Benjamin Wells prend une grande inspiration.
En quelques dizaines de minutes à peine, mais de nos jours tout va si vite, me direz-vous, une campagne de désinformation s'est mise en place. Tout d'abord, la blogosphère complotiste a relayé l'article. A suivi une campagne de calomnie, de dénigrement systématique et alarmiste, orchestrée par des gens malveillants. Une campagne amplifiée par les partis d'opposition qui, sentant là une opportunité, ont voulu nuire à l'image de notre gouvernement qui finance ce projet novateur. Permettez-moi d'ailleurs de signaler que si nous soutenons des recherches aussi audacieuses, c'est parce que nous avons, nous, au ministère de la Recherche, la volonté de faire progresser la science. Nous n'avons en aucun cas peur des avancées qui sortiraient des sentiers battus. Sachez qu'en tant que membre du gouvernement, je soutiendrai toujours les chercheurs innovants. Et lorsque ceux-ci seront lâchement vilipendés et leurs découvertes bafouées par des gens mal intentionnés à la recherche d'un coup médiatique, je leur donnerai les moyens de s'expliquer et de se défendre. Donc, mesdames et messieurs les journalistes, je vous remercie d'applaudir le professeur Alice Kammerer. Je tiens à vous rappeler que Mademoiselle Kammerer, à 30 ans à peine, est une brillante biologiste. Elle est déjà considérée comme une des meilleures spécialistes mondiales en épigénétique et bénéficie d'une renommée internationale pour ses travaux sur l'évolution du vivant et les mutations de l'ADN.
Voilà, c'est à moi. Respirez. Surtout, bien respirez.
La jeune femme aux longs cheveux noirs réunis en queue de cheval et aux grands yeux verts quitte son siège au premier rang pour monter sur l'estrade et se placer face au pupitre. Pour l'occasion, elle s'est habillée sobrement de blanc. Veste blanche, chemisier blanc, jupe blanche. Elle toise la salle.
Ce sont des hyènes. Ils attendent que je trébuche. Il va falloir que je trouve les mots justes.
Alice s'approche du micro, puis dit d'une voix claire et forte
« Toute personne qui entreprend de révolutionner son domaine de compétences fédère immanquablement contre elle trois groupes. Ceux qui souhaitent que rien ne change, ceux qui veulent faire la même chose mais qui s'y sont pris trop tard, et surtout, la grande masse de ceux qui n'y connaissent rien et croient avoir une opinion en répétant ce que les plus nombreux et les plus hostiles disent déjà. A fortiori, si ce sont des mensonges. Car l'émotion empêche la réflexion. »
Elle prend le verre d'eau placé devant elle et boit lentement une gorgée pour être sûre d'obtenir l'attention de tous. Une fois le verre reposé, elle regarde l'assistance.
« Maintenant, parlons du projet Métamorphosis. Oui, ce projet existe. Et oui, j'y crois. Il n'en est pour l'instant qu'à la phase expérimentale, c'est vrai. Cependant, même s'il peut paraître extrêmement surprenant, j'espère vraiment un jour le réaliser. Pourquoi ? Parce qu'il est indispensable à la survie de notre espèce. »
Elle laisse passer un temps, puis reprend.
« Je crois à la biodiversité comme preuve de l'intelligence de Mère Nature. C'est en multipliant les différentes formes du même animal que celui-ci s'adapte aux modifications de son environnement. Prenons l'exemple des fourmis. Chez les formicidés, sont répertoriées 12 000 espèces différentes. La plus grande fourmi connue à ce jour fait 60 fois la taille de la plus petite. Comme si, chez les humains, certains d'entre nous mesuraient 1 mètre et d'autres près de 60. »
La scientifique saisit une télécommande et fait apparaître sur l'écran vidéo accroché au mur derrière elle la photo d'un animal semblable à une peluche.
Plus près de nous, chez les lémuriens, se côtoient 132 espèces différentes, dont la taille, la fourrure, la couleur et les capacités divergent. Certains, comme les galéopithèques, aussi nommés lémuriens volants, possèdent des membranes entre leurs pattes avant et leurs pattes arrière, qui leur permettent de planer sur de très longues distances.
Sur l'écran, le temps d'une courte vidéo, un galéopithèque vole dans un ciel azur.
D'autres lémuriens savent nager. D'autres encore creusent des terriers dans la terre. Mais aucun ne sait simultanément voler, nager et vivre sous terre. Ils ont chacun leur spécificité physiologique.
Nouvelle photo.
Encore plus près de nous, les singes comptent 125 espèces différentes, chacune avec une taille bien spécifique, des talents, des rapports sociaux et des capacités très distincts.
On voit à présent le crâne d'un squelette humain.
Et l'homme, me direz-vous. Pour ceux qui l'auraient oublié, je rappelle qu'il existait jadis trois humanités différentes en plus de l'Homo sapiens, notre ancêtre direct. Tout d'abord, l'Homo neanderthalensis, découvert en 1856. Il possédait un cerveau plus gros que le nôtre. Le sien avait un volume de 1700 cm3, alors que nous en avons un de seulement 1300 cm3. Le néandertalien devait donc être, je suis désolée de vous le dire, probablement plus intelligent que nous. Ensuite, l'Homo floresiensis, découvert en 2003. Il ne mesurait qu'1m10, mais possédait une cavité nasale plus large, ce qui indique qu'il avait une capacité olfactive hautement développée, donc qu'il sentait plus d'odeurs que nous. Enfin, l'Homo denisovensis, découvert en 2010. Avec ses grandes mains munies de longs doigts, il avait une plus grande dextérité que nous. Ces trois autres humanités ayant disparu, il ne reste plus que nous, les sapiens.
Alice fait alors apparaître la photo d'une influenceuse célèbre. Son visage est lisse et brillant, sa poitrine surgonflée. Quant à ses lèvres, elles sont boursouflées, ses cils exagérément allongés et ses doigts terminés par de longs ongles sur lesquels sont peints des couchers de soleil avec des palmiers. Sur le cliché, l'influenceuse exhibe comme un trophée un minuscule Yorkshire dont la tête est surmontée d'un nœud papillon recouvert de petits diamants et qui tire la langue. Sous ce portrait, on peut lire « 5 millions de followers ». Quelques rires résonnent dans la salle, preuve que les journalistes se détendent enfin. Alice prend une nouvelle gorgée d'eau. J'ouvre ici une parenthèse. Quel degré de prétention faut-il avoir atteint pour baptiser sa propre espèce sapiens, qui vient du latin sapio, signifiant intelligent, prudent, raisonnable, ou plus simplement sage? Elle affiche un air faussement navré. Soyons honnêtes, nous ne sommes pas sages. Nous sommes même stupides, inconscients, déraisonnables et surtout d'un immense mépris pour les autres espèces coexistant avec nous sur la surface de cette planète. Nous sommes d'une telle arrogance que nous croyons que nous pouvons contrôler la nature. C'est pour cette raison que nous tendons à tout uniformiser. Les industriels de l'agriculture ont cherché à développer une seule sorte de blé, celui qui est censé pousser le plus vite et être le plus résistant. De même, nous avons multiplié une sorte de vache bien précise, celle qui produit le plus de lait. Un seul mouton, celui qui fournit le plus de laine. Un seul porc, celui qui accumule le plus de graisse. Une seule poule, celle avec les plus grosses cuisses et le moins de plumes possible. Ces espèces végétales ou animales ont été sélectionnées et clonées avec pour objectif de produire plus, plus vite, afin de générer un maximum de profit. Mais quand survient une maladie, comme le mildiou qui frappe le blé, la vache folle, la tremblante du mouton, la fièvre porcine ou la grippe aviaire, que se passe-t-il? Nos espèces uniformes meurent d'un coup, en masse, sans pouvoir se défendre. Elle écarte de ses yeux une mèche de cheveux noirs, échappée de sa queue de cheval, laisse passer un temps, puis reprend. Le projet Métamorphosis consiste à copier Mère Nature et à nous rediversifier nous-mêmes. Comme l'a rappelé le ministre Wells, il s'agit de créer 3 sous-espèces supplémentaires d'humains pour affronter les défis auxquels nous serons confrontés dans un futur pas si lointain. Chaque sous-espèce est hybride, c'est-à-dire qu'elle est le fruit d'un croisement entre l'humain et une autre espèce. La première catégorie est celle des humains volants, que j'ai baptisé de la dénomination anglaise « aerials ». Ce sont des hybrides entre l'humain et la chauve-souris. La deuxième catégorie est celle des humains creusants, dont j'ai traduit le nom en anglais par « diggers ». Ce sont des hybrides entre l'humain et la taupe. Enfin, la troisième catégorie est celle des humains nageants, les nautiques, hybrides entre l'humain et le dauphin. Ces dénominations ont été choisies à dessein. Si on s'attarde sur les initiales de chaque hybride, aérial, digger, nautique, on obtient le codage inscrit au cœur de nos cellules, le secret de la vie, ADN. Alice Kammerer se tait, pour que tous apprécient l'heureuse coïncidence, puis boit une nouvelle gorgée d'eau. Ainsi, en devenant maître des 3 éléments, l'air, l'eau et la terre, nous tenterons d'assurer la survie de notre espèce. S'il y a un séisme, ceux qui volent ne seront pas touchés. En cas de tsunami, ceux qui nagent survivront. Et si une surchauffe climatique survient, ceux qui peuvent se protéger des rayons du soleil en vivant dans les fraîcheurs souterraines résisteront. Elle lâche un long soupir. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez désormais ce qu'est Métamorphosis. La diversité que ce projet propose est indispensable pour permettre à notre espèce de perdurer. Si je devais le résumer, j'énoncerais l'équation suivante. 50% humain plus 50% animal égale
100% nouvelle humanité.
Y a-t-il des questions ?
Demande le ministre Benjamin Wells. Une femme blonde lève la main.
Fabienne Legrand pour Science Magazine. Dans son article, Diego Martinez prétend avoir trouvé, caché dans un aquarium géant de votre laboratoire, professeur Kammerer, je cite, un monstre.
C'est le ministre qui répond à la place d'Alice.
En existe-t-il une photo, une quelconque preuve ? Monsieur Martinez est connu pour chasser les scoops aux frontières de la science et de l'irrationnel. Il a déjà écrit des articles sur les maisons hantées et les extraterrestres.
Ricanement dans la salle.
Nous avons invité Monsieur Martinez à participer à cette conférence,
signale Benjamin Wells.
Il n'a visiblement pas jugé nécessaire de se déplacer pour nous raconter son expérience et sa rencontre avec son prétendu monstre de l'aquarium.
Il dit qu'il craint d'être arrêté pour avoir pénétré par effraction dans un laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle,
répond la journaliste blonde.
Il pense que cette conférence est un piège qui lui était destiné. C'est du moins ce qu'il a expliqué sur son blog.
Je vois. En plus de croire qu'il peut agir au mépris des lois de son pays, M. Martinez est paranoïaque.
Mais il assure avoir vu un être vivant bizarre dans ce laboratoire, insiste-t-elle.
S'il n'y a pas de preuve, madame, ce n'est qu'un témoignage,
martèle le ministre.
Et nous savons bien que tout témoignage est subjectif. Quant au fait qu'il ne soit pas parmi nous aujourd'hui, cela me semble démontrer qu'il n'est pas prêt à oser affronter une assemblée de journalistes aguerris qui pourraient l'interroger précisément et mettre en lumière ses mensonges. Il a tout de même réussi à attirer l'attention de la blogosphère et des médias en ajoutant à ses élucubrations une touche de sensationnel tout droit sortie de son imagination.
Vous avez pourtant avoué, monsieur le ministre, que c'était un vrai projet scientifique soutenu par le gouvernement, dont vous êtes le représentant, n'est-ce pas ?
Reprend la journaliste.
Certes, mais ce n'est qu'un projet parmi beaucoup d'autres. Vous le savez certainement, au sein du ministère, nous soutenons des centaines de travaux scientifiques très audacieux, et certaines recherches sont beaucoup plus étonnantes que ce projet-ci, croyez-moi. Je pourrais par exemple vous parler d'un projet visant à fabriquer un robot ordinateur équipé d'intelligence artificielle de dernière génération pour remplacer le président de la République.
Quelques rires saluent cette proposition. Un homme de petite taille lève la main.
Frédéric Stenz, pour TV News. J'ai une question pour le professeur Kammerer.
Je vous écoute, répond l'intéressé.
Pour envisager de créer d'autres sous-espèces d'êtres humains, vous prenez-vous pour Dieu ?
Je me prends, comme vous dites, pour une simple admiratrice de la nature,
répond Alice avec calme.
Pourquoi chercher dans le ciel un Dieu invisible alors qu'il existe un miracle bien visible autour de nous, qui est la nature elle-même ?
Elle sourit à l'assistance, satisfaite d'avoir prononcé cette phrase qui lui semble essentielle. Elle poursuit.
Ces paysages variés, ces fleurs si différentes les unes des autres, ces animaux de toute forme et de toute taille, n'est-ce pas déjà le plus grand de tous les miracles ? Je refuse de faire référence à ce Dieu le Père que je n'ai jamais vu, mais j'accepte volontiers d'envisager une mère nature dont je peux admirer l'œuvre à chaque instant. Et ce que je vois, c'est un monde merveilleux par sa diversité. Un monde avec des millions d'espèces, chacune avec des talents et des capacités spécifiques. Pourquoi vouloir tout contrôler et uniformiser ? Imaginez un instant notre planète s'il n'y avait qu'une seule sorte de poisson, d'arbre, d'herbe, d'oiseau ou d'insecte. C'est l'uniformisation qui devrait vous effrayer, pas la diversité.
Et une autre question ?
Demande le ministre Benjamin Wells, qui sent que le capital de sympathie de la chercheuse commence à s'éroder. Le journaliste de petite taille se manifeste de nouveau.
Êtes-vous la descendante du professeur autrichien Paul Kammerer, qui s'est rendu célèbre dans les années 1920 pour ses travaux sur les crapauds ?
Les traits d'Alice se durcissent. En effet, pourquoi ?
Pour rappeler que le professeur Paul Kammerer est considéré comme l'un des pires escrocs de la science.
Il s'est suicidé en 1927 lorsque ses collègues scientifiques ont dévoilé ses falsifications. Ma question est donc la suivante. Vous revendiquez-vous de son héritage de malhonnêteté intellectuelle ?
Cette fois-ci, un brouhaha parcourt l'assemblée des journalistes qui, de toute évidence, ignoraient cette information. Sans se départir de son calme, la scientifique répond.
Vous n'êtes pas sans savoir, puisque vous connaissez l'histoire de Paul Kammerer, qu'il est avéré depuis peu qu'il s'est fait piéger par des collègues jaloux. Ils ont monté un complot contre lui en truquant son expérience pour le ridiculiser. On sait maintenant avec certitude que sa mort n'était pas un suicide, mais un assassinat maquillé en suicide.
La jeune scientifique boit encore un peu d'eau, puis poursuit.
Christophe Colomb disait « Rien de ce qui résulte du progrès humain ne s'obtient avec l'assentiment de tous. Et ceux qui aperçoivent la lumière avant les autres sont condamnés à aller vers elle, en dépit de l'opinion des autres. »
« Y a-t-il une dernière question ?»
reprend le ministre pour éviter que la situation dérape. Un homme de grande taille, barbu, se lève.
« Je n'ai pas de question, mais j'ai une réponse. »
Il dégaine un revolver de dessous sa veste, lève son bras et crie
« Non, remplacement de l'humanité par des monstres hybrides !»
Puis il tire.